L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.
Bonjour, chers auditeurs. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, nous avions parlé de l'inspection de l'église Saint-Vincent d'Iroulégui et que cette inspection n'était pas très satisfaisante. Est-ce que cette église va s'embellir ? Mais oui, grâce au seigneur Durdos. La noble famille Durdos, qui vient de la noble salle de l'actuel quartier Urdos à Saint-Étienne-de-Baïgorry. La salle étant une maison noble et qui est presque toujours appelée Diaoreia, c'est-à-dire château. Cette famille Durdos devient propriétaire des salles ou palacios d'Iroulégui et de Chorouette. La famille Durdos a acheté ses possessions à la famille Etchenik et Chorouette, qui possède donc la salle Etcheveria du hameau d'Iroulégui, la salle Diaoreia du hameau de Chorouette, mais qui apparemment vit en Espagne, à Pampelune. C'est Dona Joaquima de Chorouette, veuve de Jean d'Etchenik, qui était le seigneur de Chorouette, qui va vendre ses possessions. Elle est accompagnée de son fils, Don Domingo d'Etchenik et Chorouette. On avance deux dates pour cette cession. 1664 ou 1692. Personnellement, je penche plutôt pour la seconde date, 1692, parce qu'en 1683, Guillaume Durdos, qui nomme un prêtre à la cure d'Iroulégui, il agit encore au nom de Dona Joaquima, maîtresse, propriétairesse de la maison noble d'Etcheberry du dit Iroulégui. Donc, tout à fait à la fin du XVIIe siècle, le hameau d'Iroulégui, le hameau de Chorouette, passe sous la possession, pas domination quand même, de la noble famille Durdos. Et cette noble famille décide de faire dans l'église Saint-Vincent sa chapelle mortuaire. Il y a déjà une chapelle mortuaire qui est celle de Juan d'Etchenik, seigneur de Chorouette. C'est le fameux deuxième autel que nous avions vu pendant l'inspection de Monseigneur l'évêque. Pour faire une nouvelle chapelle mortuaire, il va falloir agrandir l'église. Donc la famille Durdos entame des travaux d'agrandissement et d'embellissement, et ceci certainement après 1703, quand avait eu lieu cette fameuse inspection épiscopale. Dans le courant du XVIIIe siècle, les actes de décès confirment bien que les défunts de la famille Durdos sont transportés depuis la salle Durdos jusqu'à l'église Saint-Vincent d'Iroulégui. Ils sont inhumés dans la chapelle de Notre-Dame du Mont Carmel, dans le caveau de famille où, je cite, les cadavres de la dite noble salle Durdos ont été accoutumés d'être enterrés. Il existait aussi un hilbidea, c'est-à-dire un chemin mortuaire, qui menait Durdos à Iroulégui en passant par le quartier Oticoren. Et il se raconte même qu'on devait avoir la permission du seigneur Durdos pour emprunter ce chemin. De toute cette noble famille Durdos, seules trois personnes ont été enterrées ailleurs qu'à Iroulégui. L'ancêtre Catherine Durdos, qui est morte à Garis et qui a été enterrée à Garis en 1722. Arnaud Durdos, notre curé étoile filante, qui a été enterré à Irissari en 1762. Et Anne Lucine Durdos de Sala, qui a été enterrée à Bayonne en 1792, en pleine Révolution. Pour Pierre Durdos, qui sera un des personnage marquant de cette famille d'Urdos, et qui est mort en 1804 dans la maison noble Etcheverria d'Irulegui, nous ne savons pas s'il a été enterré à Irulegui, et pourtant il avait manifesté cette volonté plusieurs fois, dans plusieurs testaments différents. On n'a pas retrouvé d'acte d'inhumation. On a retrouvé son acte de décès à la mairie d'Irulegui, dans les archives d'Irulegui, mais l'acte d'inhumation qui aurait dû être dans les archives religieuses, je ne l'ai pas trouvé. Du temps des Urdos, l'église Saint-Vincent a été agrandie du côté nord, parce que du côté sud, il y avait déjà le cimetière. On a doublé sa surface. Pour doubler, parce qu'on a doublé cette surface, on a rehaussé le toit. Et on voit encore les traces du toit de la chapelle primitive sur le mur existant. On a fait une deuxième porte d'entrée du côté nord du porche. Par contre, l'église a adopté à ce moment-là une forme asymétrique. Parce que dans le chœur, le côté sud, qui était en biais, a été conservé en biais. Mais quand on l'a agrandi du côté nord, on l'a fait à l'équerre. Et cette asymétrie est très visible sur le cadastre napoléonien de 1840. On a construit un clocher sur le nouveau toit. Un clocher qui reposait sur deux murs, mais le reste reposait sur des poutres, d'où une catastrophe dont on parlera plus tard. Dans ce clocher, on installe en 1762 une cloche. 1762 est la date qui est gravée sur cette cloche. Pauvre cloche du XVIIIe siècle qu'on a voulu faire fondre au XXe siècle et qu'on a envoyé à la fonderie Paccard en Haute-Savoie, à Annecy en Haute-Savoie. Heureusement, à la fonderie Paccard, on a remarqué la beauté de cette cloche et on a évité de la fondre, on l'a mis plutôt dans le musée. Elle y est encore et j'ai eu l'occasion de la voir. Un peu plus tard, on a installé un mécanisme d'horlogerie pour que la cloche sonne les heures. On est seulement à la fin du XVIIIe siècle, donc on est déjà assez moderne à Irulegui. Et ce mécanisme d'horlogerie, qui a été installé en 1780, a été financé par la dot de 240 livres qui a été donnée par la benoîte de l'époque qui s'appelait Marie Charlestegui. Malheureusement, ce mécanisme d'horlogerie a disparu dans les années 2000. L'ancienne conservatrice CAOA, Hortensia Gauthier, disait qu'il avait été vendu par la mairie à un antiquaire. On peut supposer que tous les travaux demandés par Monseigneur de Beauvau de Rivaux, évêque de Bayonne, lors de son inspection, ont été ainsi réalisés par la famille d'Urdos, c'est-à-dire qu'on a lambrissé la nef, qu'on a installé un balustre, qu'on a mis des vitrages aux fenêtres, qu'on a acheté crucifix et ciboires. Lesquels crucifix et ciboires seront volés à la Révolution. Rendez-vous à l'épisode suivant. Au revoir à tous.
L'histoire méconnue du village d'Irulegui, racontée par Dami Vigier.